on est sur un traité qui est un petit peu dépassé sur le plan technique. Chacun pense qu'il est contourné, contournable, parce qu'il est plus adapté et que chacun veut moderniser un certain nombre de choses, ce qui fait sortir de normes qui ont été adoptées il y a trop longtemps. C'est simplement des modifications dans l'armement. Ça augmente l'efficacité des armements existants, en échange de quoi le nombre d'armes continue de diminuer.
La dispute avec la Turquie, qui elle veut s'équiper d'armements américains et russes, ce qui ne plaît pas beaucoup aux États-Unis. Comment sortir de cette impasse selon vous?
C'est un problème avec le F-35 et les missiles S-400 côté russe. Le problème, c'est que le F-35, c'est un avion qui a plus de qualité que ce que disent les médias dans beaucoup de pays, à part le fait qu'il est horriblement cher, mais qui a comme principal intérêt d'être entièrement intégré dans toute la gestion du champ de bataille. Et si on intègre dans sa gestion du champ de bataille des matériels russes, il y a des incompatibilités, ou bien on est obligé de faire des bricolages qui vont compromettre la capacité de transmission de données du F-35, et donc compromettre un avion qui est destiné à beaucoup de pays de l'OTAN.
Toutefois, la Turquie a dit qu'elle ne céderait pas, que c'était déjà engagé. Donc, comment sortir de cette impasse?
J'ai cru comprendre que les pilotes turcs qui étaient en entraînement aux États-Unis vont quitter l'entraînement sur F-35 aux États-Unis. Donc, j'ai l'impression qu'on se dirige, au moins pour un certain temps, vers un arrêt la vente de F-35 à la Turquie. Il pose des tas de problèmes parce qu'il y a un certain nombre de morceaux du F-35 qui sont fabriqués par les Turcs et aussi parce que les F-400 achetés aux Russes sont déjà arrivés.
Quant aux dépenses militaires, Donald Trump avait donc critiqué les pays qui ne participaient pas beaucoup et c'est encore l'Allemagne qui est mise au banc des accusés, notamment l'OTAN lui a rappelé de participer un petit peu plus. Pourquoi l'Allemagne ne met pas plus d'argent dans cette organisation?
L'Allemagne n'est toujours pas sortie d'une certaine réticence vis-à-vis de tout ce qui est militaire. Ça va beaucoup plus loin que le problème strictement gouvernemental. C'est vraiment une armée qui n'est pas destinée à combattre, l'armée allemande pour le moment. Donc il y a à la fois un problème matériel et un problème politique avec elle.
70 ans d'OTAN, qu'est-ce que cette alliance a réalisé jusqu'ici au niveau sécuritaire?
Pour avoir été pilote dans l'armée de l'air et directement opérationnel, la grosse chose pour l'OTAN, c'est d'avoir rendu compatibles à tous les niveaux les militaires de tous les pays membres de la coalition. Son côté technique et opérationnel et fonctionnement commun demeure extrêmement performant. Par contre, la politique d'emploi et le partage du fardeau sont des choses qui vont certainement l'affaiblir dans les temps qui viennent si ce n'est pas réglé. Faire avancer le processus, ça voudrait dire que tout le monde prend un engagement un petit peu comme celui qui a été fait par les Européens de limiter leur déficit à 3%, d'avoir un budget de défense qui soit à 2% par exemple du PIB. Puis ensuite, l'OTAN, il y a deux périodes dans l'OTAN. Il y a la période de l'Union soviétique et puis de l'OTAN destinée à contrer l'Union soviétique. Puis la deuxième période, c'est qu'est-ce qu'on fait après l'effondrement de l'Union soviétique? Est-ce qu'on va contrer la Russie, ce qui est en train de redevenir maintenant, ou est-ce qu'on va faire des opérations très loin, en dehors du territoire prévu pour l'utilisation de l'OTAN, avec par exemple des opérations comme l'Irak, où l'OTAN n'a pas participé parce qu'il y a un certain nombre de membres qui ne voulaient pas, ou l'Afghanistan, où par contre, là, l'OTAN s'est engagé en tant.
Alors justement, selon vous, est-ce que la menace russe existe réellement toujours aujourd'hui?
D'une part, les forces militaires russes ne sont plus du tout ce qu'elles ont été. Moi, ce que je constate, c'est que à l'heure actuelle, ce sont les forces de l'OTAN qui se sont rapprochées de la frontière russe et pas le contraire. Donc, j'ai l'impression qu'on exagère très fortement la menace russe. Les Russes, effectivement, ont fait des choses un peu étonnantes en Ukraine ou en Crimée. Et à côté de ça, la présence de plus en plus forte de moyens militaires lourds de l'OTAN à proximité des frontières russes est vécue aussi comme une provocation par les Russes.
Le vice-président américain Mike Pence a aussi critiqué par rapport à l'Allemagne ce projet de gazoduc avec la Russie. Est-ce que cette organisation ne passe pas un petit peu les frontières de la sécurité en s'immisçant régulièrement dans les questions économiques?
Là, je pense que le vice-président mélange effectivement les problèmes sécuritaires, même la partie civile, parce que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est d'abord une partie civile sur laquelle on a greffé ensuite du militaire. Mais on peut peut-être dire qu'il y aurait une dépendance de l'Allemagne au gaz russe. Il y a déjà des interdépendances qui existent depuis longtemps. Et ce n'est, à mon avis, effectivement pas à l'OTAN, en tant qu'OTAN, de se mêler de cette affaire. Que les États-Unis veuillent exporter du gaz de schiste, que les États-Unis veuillent directement dire à l'Allemagne que c'est pas bien ce qu'elle fait, peux le comprendre, mais c'est pas, à mon avis, à l'OTAN de se mêler de cette affaire.